Avec le son, c'est mieux, c'est ça. J'ai complètement loupé mon intro. Ben, c'est pas grave. Bonjour à tous. Bonjour à tous, ici Chaos. On est dimanche, il est 17h. Bah oui, on m'entend pas. Bah oui, voilà, ça fait 5 secondes, enfin 10 secondes que je parle dans le vent. Mais c'est pas grave, je recommence. Il n'y a pas de souci. Donc bonjour à tous, bien sûr. C'est l'heure du live et c'est l'heure du Pirate Talk. Pirate Talk, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est ça que j'essayais d'expliquer. Hein, donc le Pirate Talk, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une séance d'à peu près 1 heure où on va discuter ensemble, on va échanger sur le hacking, l'éthique, la politique, tout ce que vous voulez, hein, globalement l'informatique, on va dire en général, mais en tout cas un petit peu tous les sujets. Et l'idée, eh bien, c'est d'échanger, voilà, de pas se prendre la tête. Et notamment, bah, toujours hein, avancer sur cette éthique dont je vous tanne les oreilles à chaque fois, hein, pour essayer d'être un peu plus... pas moral, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas d'y réfléchir, parce que c'est important quand on veut faire de la sécurité informatique, qu'on soit du bon ou du mauvais côté d'ailleurs. Bonjour du coup dans le chat, bonjour, bonjour Alexis, bonjour Braguem, bonjour Monsieur Nipal, bonjour José Dembélé. Bonjour Saoko et bonjour Kabot, merci. Et merci pour ton sub Saoko d'ailleurs. 4 mois déjà, mon Dieu, que le temps passe vite. Alors je rappelle que pour participer du coup au Pirate Talk, vous pouvez donc le faire à travers le chat qui se trouve là au-dessus de ma tête, hein, le chat écrit, bien sûr, mais aussi éventuellement par le Discord. Donc pour ceux qui ont accès à mon Discord, le lien d'ailleurs devrait pas tarder à passer dans le chat, c'est Cabot qui vous le donne. Du coup oui, je mettrai le vocal du Discord, d'ailleurs je vais l'activer maintenant. Hop, voilà. Donc si jamais vous avez envie de participer en live avec votre plus belle voix de je ne sais quoi, de votre plus belle voix, eh bien, en tout cas, vous pouvez le faire directement. Et donc, pendant qu'on discute, eh bien, moi, je jouerai à Sea of Thieves. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre. Alors, aujourd'hui, j'ai pris un bateau un peu plus petit, parce que la dernière fois, on avait un galion, et puis, ma foi, on l'avait pas rempli à fond, donc ça servait à rien. Là, j'ai pris un tout petit sloop, donc c'est le plus petit bateau. Il y a une place, voilà. Si quelqu'un veut me rejoindre, on peut jouer à deux. Puis, si vraiment, il y a trop de monde, je changerai de bateau. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez rejoindre, c'est possible aussi. Donc, dans le jeu, directement, Sea of Thieves, il suffit de m'avoir en ami. Voilà, je pense que j'ai tout dit cette fois. Avec le micro ouvert, encore mieux. Bonjour du coup Asborg qui vient d'arriver et Yuri Prod. Salut, salut. Et puis bah ma foi, on va y aller. Hein. Donc moi, je vais faire mes petites quêtes de trésors, hein, de chercheurs d'or, tout ça. Et puis bah, je vous attends pour vos questions. Donc dans le chat écrit ou dans le chat vocal. Et puis bah, lancez-moi sur des sujets et je vous répondrai du mieux que je peux. Voilà. Du mieux que je peux. En attendant, je vais chercher mes quêtes. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à faire? Donc, j'ai Allfelfool. Avec mon superbe accent anglish. Hop là, ça c'est Skengrove. Skengrove, il est là. Hop. Ensuite, nous avons une toute petite île qui s'appelle. C'est celle-là, hein? Oui, c'est celle-là. L'île des derniers mots. Et Crookenmast. Crookenmast qui sera. Qui sera ici. Voilà. Donc, on va commencer, je pense, par Crookenmast, du coup. On va commencer par le bas. Alors, à quand un live full forensic? Voilà une bonne idée. Eh bien, alors, c'est toujours un peu ce que j'avais dit déjà la dernière fois sur les lives qui ne sont pas que des catch the flag. Globalement, un live forensic, pourquoi pas? Il faut que je trouve une manière de rendre ça agréable. Alors le problème des forensics, c'est que d'abord j'en ai pas trouvé tant que ça, des simples. Du coup, bah, il faut que je trouve un qui soit amusant à faire, vous voyez, qui permette d'être interactif et tout. Alors faut pas que ce soit backseat, hein, faut pas que vous soyez tout le temps en train de me dire, bah là, va cliquer là-dessus, va cliquer là. C'est pas très amusant, il faut que je vous montre des choses, quoi. Donc c'est pas évident, forensics, c'est pas super évident. Je sais pas si j'ai beaucoup de pédagogie à vous partager, beaucoup de techniques. Bon, mais pourquoi pas? Faut que je trouve le bon. Alors, je vous dirais que j'en ai fait quelques-uns, mais du coup, ils ont été, c'était des faciles. Et du coup, bah, je les ai fait dans la foulée. En fait, je voulais juste les commencer pour voir s'ils étaient intéressants. Puis, en fait, en les commençant, je les ai finis. Donc, il faudrait que j'en trouve un qui soit déjà assez long pour tenir 1 heure, et puis bah, qui soit sympa. Donc, bon, à creuser, mais pourquoi pas. Tu en es où avec YouTube? Ah, YouTube des news. Donc YouTube. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop suivi la situation. Donc actuellement, enfin actuellement, non, cette semaine, quoi, on va dire les 2 dernières semaines, le petit monde des youtubeurs infosec, cybersécurité, YouTube français a été un petit peu secoué, puisque la chaîne de WakedXY, je sais pas si vous connaissez, qui est un gros, hein, il avait 70 000 abonnés, donc avait été zappé par YouTube, hein, striké. Alors c'est, je sais plus combien il avait eu de strikes, mais enfin au bout d'un moment, voilà, il y a une suppression de la chaîne. Donc du coup, il avait eu sa chaîne entièrement supprimée et bah il s'en sortait parce que bah il avait monté un petit compte Twitter à côté et puis une chaîne secondaire où il commençait à re-upload ses vidéos. Donc bon, ça avait fait un petit peu de bruit quand même quand c'est arrivé, hein, parce que bon. Tu perds pas 70 000 abonnés sans le prendre très bien. Dans l'intervalle, moi, quelques jours après, on va dire, j'ai eu une de mes vidéos qui a été supprimée. Donc c'est l'épisode 1 du Catch the Flag Gore Mint, si je ne m'abuse. Donc une seule. Hein, c'était mon. Du coup, c'est mon premier avertissement. C'est la première fois que j'avais un avertissement. Et je crois que Processus a eu aussi pas mal d'avertissements, mais lui, il a rien eu. Il a pas. Enfin, s'il a dû avoir quelques vidéos supprimées. Je sais plus. Je sais pas exactement ce qu'il a eu, mais je sais qu'il a eu pas mal d'avertissements en tout cas. Ça, c'est sûr. Et donc, bah, voilà. Il y a eu une espèce de tendance de fond où tout le monde a été un peu bousculé sur sa chaîne YouTube. Et donc, c'était pas cool. Là-dessus, bon, moi, de mon côté, j'ai fait ma petite démarche pour faire appel et remettre ma vidéo en ligne. On m'a envoyé chier. Wicked, donc c'est associé avec comment il s'appelle? C'est Christophe, mais j'ai plus son nom complet, mais c'est Brain Override. Ils ont essayé de faire une action un peu ensemble pour voilà militer un peu plus auprès de YouTube, et ils ont obtenu d'ailleurs, je crois que c'était hier, la restauration de la chaîne de Wicked. Donc, sa chaîne principale de 70 000 abonnés est revenue. Moi, ma vidéo à moi, elle n'est pas revenue. Mais en tout cas, sa chaîne à lui, elle est revenue. Donc, bah, bravo à lui, hein, ils ont réussi à faire assez de bruit pour que YouTube les entende. Mais en tout cas, ce que ça a permis de voir, c'est que le hacking sur YouTube, ça a plus vraiment la cote, hein, on va dire. Alors, je suppose que ça a déjà eu la cote, mais en tout cas, c'est mal vu. Et du coup, eh bien, on se pose des questions. On se pose des questions sur la suite, sur est-ce qu'on peut continuer à faire ce genre de vidéos. Alors, c'est des vidéos très différentes, hein. Wicked fait de la vulgarisation, moi je fais plus du catch the flag, hein, voilà, des lives. Donc on n'est pas sur le même contenu. Processus fait aussi de la vulgarisation, mais sur d'autres contenus que Wicked. Bon, on a chacun nos petites spécificités, hein. On fait pas la même chose. Mais voilà, on a été emmerdés tout pareil. Donc, à voir. Moi, c'était mon premier avertissement. Donc on va dire je me suis pas paniqué plus que ça. Bon, j'ai vu rapidement que YouTube m'envoyait chier, mais à part ça, j'ai pas creusé beaucoup plus. Bon, Wicked, comme il avait beaucoup à perdre, il a quand même creusé plus et il a fini par trouver gain de cause. Le sujet reste en suspens. Est-ce que le hacking sur YouTube a sa place? Moi je trouve que oui, au sens éducatif, parce que vous savez que c'est un peu ma marotte, hein. Moi je suis là pour apprendre aux gens, et je considère que bah, de toute façon, quand tu fais de la sécurité informatique, faut aussi apprendre à être un hacker, hein. Ça va avec. YouTube clairement pense le contraire, hein. Là-dessus on va pas se mentir. Mais voilà, on sait pas trop à l'avenir ce que ça va donner, si ça peut durer ou pas. Moi je croise les doigts. Ce que j'ai fait moi concrètement du coup pour contrer, on va dire, parce que en analysant un peu ce qui m'est arrivé à moi personnellement, hein, mon cas pratique, je me suis dit que entre la vidéo qui avait été strikée du premier coup, hein, sans même avertissement ni rien, et l'appel qui a été aussi refusé, mais dans la, je vous dis, je l'ai envoyé, et en gros dans les 10 secondes qu'on suivit, il a été marqué rejeté, quoi. Donc je me suis dit que globalement on ne devait pas beaucoup me. On ne devait pas m'avoir lu, quoi. Ça devait être plutôt automatique, un robot ou que sais-je, qui avait traité la demande. Donc moi, ce que j'ai fait, personnellement, c'est que j'ai supprimé de. Alors pas de vidéo, hein, vous inquiétez pas. Oh, disons, je vois que mon fond vert est dégueulasse. Attendez. Ah, c'est mieux là comme ça? Ouais, c'est mieux. Il y avait un petit dégueulasse de fond vert là. Je l'avais mal mis. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc moi, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai supprimé de tous mes titres de vidéos et des mots-clés de référencement. Vous savez, on met plein de tags dans les vidéos. J'ai supprimé tout ce qui contenait le mot hack. Donc, comme la série s'appelle Un hacker en train de hacker, en gros, je mets plus le titre de la série dans les vidéos. Donc, par exemple, un catch the flag truc épisode 1. Avant, je mettais entre parenthèses au bout un hacker en train de hacker. Bah, ça, je l'ai enlevé. C'est juste catch the flag, machin, épisode 1. Point. Et même chose dans les descriptions, même chose dans les mots-clés que j'ai mis par en dessous. Donc, j'ai enlevé strictement tout ce qui était hack, hacking, hacker. En me disant que bah ça allait un peu contrer l'algo de YouTube hein, qui a l'air de pas aimer le hacking. Au final, bah, j'ai plutôt bien fait puisque en fait conséquence de ça, j'arrive même pas à tirer. Parler et tirer en même temps c'est vachement dur. Conséquence de ça, toutes mes vidéos, je vous en avais déjà parlé à une époque, toutes mes vidéos hacking étaient systématiquement démonétisées. Eh bien en enlevant le mot hack de partout. Soudainement, sans que je demande rien du tout de réévaluation ou quoi que ce soit, mes vidéos ont été à nouveau monétisées. Ce qui est cool. Voilà, ça montre à quel point on est sur un schéma automatique à la con, mais on va pas se plaindre, hein, globalement. Donc du coup, mes vidéos se sont retrouvées intégralement toutes monétisées. Alors à part quelques vieux trucs qui avaient été démonétisés pour des histoires de droits d'auteur, de sons, enfin, vous voyez, de musique, de choses comme ça, mais globalement tout ce qui était démonétisé par le hacking, eh ben, s'est retrouvé remonétisé. Donc bah voilà, quelque chose malheur est bon, on va dire ça comme ça. Donc du coup, bah ma vidéo est toujours supprimée, hein, la Gormint, là le premier épisode de Gormint. Je me tâte à éventuellement la re-upload, mais bon, je vais pas tenter le diable, hein, on va pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, bah, au final, toutes mes vidéos sont redevenues monétisées, ce qui est... Bon, c'est pas ce que je vais gagner par la monétisation, hein, on s'emballe pas, mais bon, voilà. Quelque part, le fait que les vidéos soient remonétisées, ça veut dire que aussi YouTube m'en veut moins, vous voyez? Il y a une espèce de notion comme ça où, en général, les vidéos qui se font avertir, striker, etc., c'est aussi celles qui se font démonétiser. Hein, on est en général dans le même sac. Donc le fait qu'il m'ait tout remonétisé m'encourage à penser que je suis moins dans le viseur de YouTube. Pour des raisons purement algorithmiques de bête. Hein, vraiment, c'est le mot hack, quoi. Hein, Je pense, moi, honnêtement, que c'est ça la raison de toute l'histoire. Parce que, en fait, après, j'ai échangé avec Wicked aussi, du moment où il avait sa chaîne qui avait été supprimée. Il m'a montré quelques screens de quelle vidéo s'est fait strike, et comme par hasard, il y avait hack dans le titre. Donc, honnêtement, je pense que c'est là que ça se tient, quoi. Hein, c'est l'histoire du hack, du mot hack. Bon, lui, il est persuadé que c'est plutôt des haters qui avaient report des vidéos, report sa chaîne. Mais voilà, moi, ma théorie, elle est plutôt vers le bot et vers le comment dire, l'algo quoi. Hein. On verra ce que ça donne dans le futur. Voilà. Sans YouTube, je n'aurais pas appris ce que je sais aujourd'hui du hacking. Oui, clairement. Puis, enfin. Moi, j'ai pas appris par YouTube, mais je trouve que c'est une ressource. Actuellement, quand j'ai besoin d'une info, je vais sur YouTube. Le problème de YouTube, c'est que c'est pas ce qui m'apporte le plus d'argent, hein, clairement. Moi, ce qui m'apporte de l'argent, c'est le Tipeee, hein, vous le savez. Et les subs aussi sur Twitch. Mais la monétisation ne m'apporte rien ou quasi rien, quoi. Hein, on est pas du tout. C'est pas ça ma source de revenus. Mais ce qui m'importe, moi, dans YouTube, c'est le côté visibilité, en fait. Parce que bah une vidéo sur YouTube, vous êtes sûr qu'il y a un public derrière qui va être amené à la voir quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. En attendant, donc du coup ça fait un petit drama, enfin pas un drama, mais un petit mouvement dans la commune. Ça a été l'occasion de me rapprocher un peu de mes collègues YouTubeurs, voilà. C'était l'occasion aussi. Et puis bah on verra bien ce qu'il en sort, s'il en sort quelque chose. 6, non, mais je crois que je suis pas du tout au bon endroit là. Oui, non, pas du tout. C'est pas ça en fait, la tombe du Kraken. Attendez. J'essaie de faire juste un petit peu maquette quand même. La tombe de la proie du Kraken. Là, il y a un Kraken qui est dessiné, mais ça doit pas être ici. Voilà pour cette question. Que penses-tu du marché de l'emploi concernant la cyber. D'ailleurs, bonjour Sender of Dream, je t'avais pas vu, excuse-moi. Que penses-tu du marché de l'emploi concernant la cybersécurité? Va-t-il être aussi dynamique actuellement dans les prochaines années? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut bosser là-dedans. Je saurais pas répondre à cette question-là dans le sens où j'ai pas la connaissance globale du marché de l'emploi. Je sais qu'il y a un besoin. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a clairement un besoin, mais qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui date d'il y a pas mal d'années. Mais les attaques se multipliant, le sujet cybersécurité est devenant incontournable maintenant. Les boîtes ont plus le choix en fait, tout simplement. Donc, qui dit plus le choix dit ça y est, on se précipite à recruter. Alors le problème c'est que les écoles qui se disent bah ok, il faut qu'on se mette à faire de la sécurité, et bah elles s'y mettent maintenant, et ma foi c'est un peu tard, parce que le temps que les élèves sortent des écoles, ils sont pas. Voilà, le marché aura changé. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une espèce d'appétence. Ah bah tiens, il est là. Il y a clairement une appétence vers la cybersécurité. Donc si vous êtes en sortie d'école, c'est le bon moment, quoi. Voilà. Si vous êtes en début, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas que c'est pas la peine d'en faire. C'est que c'est pas l'appétence de maintenant qui guidera votre capacité à être embauché derrière. Maintenant, moi je considère que c'est un secteur qui ne peut que s'agrandir. On n'est pas si nombreux que ça dans le métier. Hein. En plus, il commence à y avoir un regroupement dans des grosses boîtes. Enfin, il y a pas mal de structures qui restent à stabiliser. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, pour l'instant, ouais, la sécurité, pour moi, c'est encore porteur. Enfin, oui, c'est clairement porteur. Et enfin, c'est un sujet qui, pour moi, durera longtemps encore. Hein. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, n'importe qui a besoin de sécurité, en fait. Le problème, c'est ça. C'est que, je veux dire, même le premier Pékin venu va faire un site internet. Il va demander à n'importe qui. Et il va se retrouver avec un site internet plein de failles. Parce qu'il n'y a aucune boîte qui fait. Donc, on va peut-être plus aller vers des offres de services, on va dire, combinées. C'est-à-dire que vous achetez un site internet et dans la prestation, vous demandez à ce qu'il soit sécurisé. Donc là, du coup, le développeur de site internet devra acheter une prestation sécurité. Peut-être plus dans ce format-là. Mais clairement, oui, il y a encore un marché très, 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 très porteur dans la cybersécurité. Mais comme, en fait, ça fait un bout de temps qu'il est porteur. Hein, c'est ça le problème. C'est que ça fait bien 15 ans qu'on dit qu'il faut recruter des gens en cyber. On commence à se réveiller parce que, bah, de toute façon, le nombre d'attaques par. C'est même plus par an maintenant, c'est par jour, par semaine, allez, on va dire. Il se passe pas une semaine sans qu'il y ait une énorme attaque, quoi. C'est assez phénoménal. Les fuites de données, tout ça, enfin, il y a une vraie problématique. Voilà pour cette question. Enfin, j'espère avoir répondu au mieux, en tout cas, à ta question. Tu penses pas qu'on a fait plein de machines Linux et ce qui peut être intéressant, c'est de passer sur Windows et se familiariser avec l'Active Directory et le PowerShell. En plus, c'est ce qui est beaucoup demandé dans le marché du travail, c'est primordial de bien maîtriser l'environnement Windows. C'est vrai que dans les lives, alors je suppose que tu parles de ma chaîne, hein. C'est vrai que dans mes lives, on fait pas beaucoup de Windows parce que j'aime pas ça, mais et puis je suis pas forcément le plus calé pour vous parler de machines Windows. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse plus. La problématique étant, c'est que mine de rien, elles sont plus rares en fait. Par exemple, sur Valve, vous n'en trouverez pas. Dans Xbox, il y en a dans les retailers, mais on m'a dit de pas faire trop de retailers de Xbox parce que bah du coup, t'es obligé d'être abonné pour pouvoir les faire aussi. Tu vois, quand toi, t'as envie de les faire en même temps que le live ou à côté du live, tu vois, ou de l'entraîner en amont, t'es obligé de prendre un abonnement à Xbox. Donc ça fait chier un peu les gens. Donc il reste TryAcme. TryAcme, il doit y en avoir quelques-unes, ouais, on pourrait les faire. On pourrait les faire, après toujours dans l'optique de niveau easy, hein, on est bien d'accord. Mais oui, c'est vrai que après c'est plus, on va dire, mon biais à moi qui fait que j'ai tendance à pas me diriger vers des Windows. Mais il va falloir qu'on en fasse plus, clairement. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où tu me dis que c'est ce qui est demandé sur le marché du travail. Oui et non. C'est-à-dire que une entreprise qui est full Windows, faut qu'elle ait une vraie raison d'être full Windows. Hein. Je suis désolé, le monde du web, par exemple, n'est pas en Windows hein, et n'est pas près d'y être. Quand tu fais de l'Active Directory, quand tu vas faire de la sécurité en entreprise sur du Windows, c'est généralement pour tout ce qui est interne à l'entreprise. Donc du coup, effectivement, l'Active Directory et compagnie. Mais pas sur de la sécurité externe, quoi. Enfin, l'interface de l'entreprise avec l'extérieur. Donc, c'est pas les mêmes choses. On fait pas les mêmes tests, on n'attaque pas les mêmes trucs. C'est intéressant aussi, attention, il n'y a pas de critique là-dessus, hein, mais c'est pas le même sujet, en fait. Moi, ce que je vous montre, ça va plus être des métiers où on va pen tester des interfaces ouvertes à l'extérieur. Voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est du pen testing du coup. Alors que en entreprise, on va plutôt te demander effectivement de sécuriser un annuaire et donc du coup un truc en interne, quoi. Merci pour ton follow, YuriProd. Mais bon, en tout cas, oui, plus de Windows. Je sais que vous me réclamez régulièrement du Windows. Il faut vraiment que je me décide à en faire plus. J'en fais, hein, mais j'en fais pas assez. C'est une certitude. Blablabla, où j'en suis? Quel est le meilleur OS pour toi pour débuter? Beaucoup de personnes déconseillent Kali Linux pour les gens qui commencent. Mais peut-on avoir une partie des logiciels de Kali sur une autre distri Linux? Alors, débuter le hacking, tu entends? Oh, merci pour ton sub Twitch Purple, merci beaucoup. Du coup, Yuriprod, qu'est-ce que tu entends par débuter? Débuter la sécurité ou débuter l'informatique en général? Parce que c'est pas le même. Je ne vais pas te faire la même réponse. C'est suivant ce que tu me demandes. Bon, on va partir du principe que tu parles pour la sécurité. Donc pour la sécurité, n'importe quel distrib Linux fera l'affaire. Honnêtement, peu importe. Peu importe. Là, que ce soit Kali ou une autre, maintenant, enfin, prends une Debian, on va dire. Voilà. Je vais plutôt t'encourager à être sur du modèle Debian, donc Kali est une Debian, il y a Parrot qui me semble est une Debian aussi, tu peux prendre Ubuntu, enfin voilà, j'aurais tendance à conseiller plus les Debian parce que pour leur stabilité, et puis quelque part elles sont quand même plus simples, je trouve, après voilà, chacun a ses appétences, et comme elle est très 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 répandue, surtout c'est ça qui est intéressant, en général tous les outils sécurité que tu trouves sur Kali, vont être dispo sur des Debian en général, quoi. Quelle que soit la variante, quel que soit le type de Debian que tu as, tu vas avoir les outils dispo dessus en paquet. Il va y avoir tout ce qu'il faut. Donc, peu importe laquelle, tu auras les outils assez rapidement. Et puis, bah, de toute façon, tout ce qui n'est pas purement pacté en binaire, de toute façon, c'est du Python. Donc, n'importe quel distrib avec du Python ou du Perl en général. Tu prends le dernier Python, tu prends le dernier Perl, tu as à peu près les 90% des outils. Qu'on voit nous par exemple dans nos lives qui sont disponibles, hein. Donc quelle que soit ta distrib finalement, il n'y en a pas une qui va être plus. En fait, quand on parle de pour débuter, ça va plus être l'utilisation de la distrib autour, est-ce qu'elle est simple ou pas? Donc à la limite, prends une Ubuntu. L'Ubuntu elle est facile à utiliser, voilà, parce qu'elle est faite pour ça, c'est une distrib grand public. Donc éventuellement, voilà, dans ce sens-là, mais en termes d'outillage, de toute façon, tous les outils sont à une commande d'install de distance, quoi, hein. Donc. Même s'ils sont pas embarqués sur ta distrib, tu les récupères ultra facilement, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de problématique à ce niveau-là. Donc bah, honnêtement, prends la distrib que tu veux. Moi je suis parti sur Kali parce que voilà, c'est celle que j'avais en VM à l'époque. Maintenant c'est celle qui est sous le VSL Windows aussi. C'est la Kali qui est la plus répandue. Bon bah voilà, je prends celle-là. Mais je prends ce qui vient, hein. Après je suis pas. De toute façon, on fait tout en ligne de commande, donc voilà, c'est aussi ça Linux. Hein. Vu que enfin, en tout cas, de ce qu'on fait nous, ça nécessite que de la ligne de commande, voilà, du Python, un petit VI, ça tu le trouves partout. Donc, quelle que soit ta distrib, tu l'auras. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve que une distrib avec des outils de pentest alors qu'on apprend l'environnement Linux, c'est griller des étapes. Oui, bah voilà. Après, c'est si tu veux apprendre la sécurité. Si tu veux apprendre Linux en général, là tu prends Ubuntu. Enfin, il doit y en avoir des plus simples. Je dis celle-là parce que c'est celle que je connais la plus connue en grand public, mais il y en a plein des distribs. Mais clairement, par exemple, chez ma belle-mère, c'est une Ubuntu que je lui ai installée parce que voilà, c'est plutôt simple d'utilisation et même quelqu'un qui n'est pas familier de Linux. Va arriver à s'en sortir, quoi. Hein. Pour l'usage qu'elle en a, ça va très bien. Donc bah voilà. Après, pour débuter la sécurité, bon, il n'y a pas de. Parrot fait sûrement tout ce qu'il faut aussi. Moi j'aime bien Kali parce qu'il y a des trucs embarqués, mais genre il y a les web shells par exemple qui sont déjà fournis, il y a Rockyou qui est disponible, ça évite d'aller la télécharger. Mais Bon bah voilà, sinon tu la télécharges, hein, ça te prend 5 minutes, hein, c'est pas non plus le temps que ça va te prendre, quoi. Bon, j'essaie de trouver où je suis sur cette île. Donc le rocher est là, donc je vais le mettre dans mon dos, voilà, comme ça. Et donc les coffres doivent être quelque part devant. Et voyez ce petit bateau fantôme là, il me nargue. Je vais pas l'attaquer parce que tout seul sur un galion, enfin sur un bateau, je suis pas très doué en PVP, enfin en attaque comme ça. Je trouve que Parrot est plus instable que Cali pour les expériences que j'ai eues avec ces deux OS. Alors honnêtement, moi, Parrot, je m'en suis servi quoi? Deux fois? Avec la... C'était qui faisait ça? C'était Tryakmi? Qui proposait une Parrot? Ou c'était Axebox? Je sais plus, peut-être les deux le font. Je sais plus. Ça doit être Axebox. Qui met à disposition une Parrot. Donc comme ça, tu peux attaquer les machines directement avec une machine fournie par Axebox. Donc tu pars du... Ah, du coup, l'avantage, c'est que bah tu pars du principe que si c'est le site même du challenge qui te propose un OS, c'est que l'OS doit être complet, doit contenir tout ce qu'il faut comme outil dedans, quoi. Voilà. Mais après... Donc je m'en suis servi à cette occasion-là. Au-delà de ça, honnêtement, Parrot, j'ai pas utilisé plus que ça. J'ai pas de grief contre, hein. C'est juste, bah... Peu importe, quoi. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein. Je vous rappelle, j'ai fait du hacking sur du smartphone, hein, donc... voilà, les cache de flag sur smartphone, quand on a fait un, tu te dis que toutes les distribs valent le coup parce que c'est mieux qu'un smartphone, voilà. Donc, peu importe tant que c'est pas un smartphone, voilà, c'est ça l'idée en fait. Hein. C'est ça l'idée. Mais après, elles sont toutes intéressantes. Je note que personne n'a osé venir dans le vocal. Vous êtes timide cette semaine. Autant la première fois, il y avait du monde. Autant là, non, vous préférez être tranquillement derrière votre clavier. Je vous comprends. Je vous comprends. Quand le reverse engineering devient illégal? Tout le temps. Tout le temps. Alors, j'ai fait une vidéo, tiens, là-dessus. Sur ma chaîne, donc tant qu'elle existe encore, profitez-en. Sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Les lois contre le hacking. Qui t'explique un peu ce que tu as le droit et pas le droit de faire. Donc en termes de hacking large, hein, tout ce que tu as le droit. Donc bon, bien sûr, il y a tout ce qui est se maintenir dans un système, qui est une problématique à part entière, mais tout ce qui est reverse engineering, les trois quarts du temps, c'est illégal, parce qu'en fait, c'est quasiment dans toutes les clauses, c'est dans les conditions que tu acceptes au tout début quand tu lances un programme. Je ne connais pas aujourd'hui, mais alors après j'ai pas non plus super lu dans le détail, mais quand tu lances un logiciel et que tu as les conditions d'utilisation, là le contrat utilisateur que tu acceptes, quasiment tous les contrats d'utilisateur maintenant ont une clause qui dit tu n'as pas le droit de faire du reverse dessus. Alors, je sais plus exactement comment ils disent ça. Je pense pas que le mot reverse engineering soit cité, mais t'as pas le droit en fait de désosser le code d'une manière générale, de modifier ou de. Je crois que c'est un truc comme ça, la formulation, c'est il est interdit de modifier ou de décompiler, quoi. En fait, le simple fait de le lire, donc de le décompiler, de le transformer en assembleur, c'est déjà dans la notion de copyright américaine, hein, mais celle que du coup on bouffe tous les jours, c'est déjà une forme de reverse engineering illégal. Donc bah du coup c'est illégal tout le temps. Ça devient légal quand t'as l'autorisation. Voilà. Comme un peu tout dans la sécurité, hein. C'est légal quand t'as l'autorisation de la personne qui possède. Du coup, sur un logiciel, t'as jamais l'autorisation. Sur un jeu, encore moins. Je sais pas moi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. T'as le droit si le codeur, le développeur, le propriétaire de l'appli t'a dit oui, t'as le droit. Voilà. Ce sont les seules occasions à laquelle t'as le droit. Ce qui fait pas beaucoup du coup. Donc le reverse, c'est majoritairement illégal. Malheureusement. Alors c'est illégal. Enfin, tu le fais dans ton coin, personne ne va te le dire. Hein. C'est une question de discrétion aussi. Il y a une espèce de zone grise, on va dire, où tant que tu t'en sers pas, tant que tu es discret, tu ne fais qu'apprendre, personne ne te dira rien, quoi. Après, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Là, vous m'envoyez vos questions, vous avez le droit de débattre. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, on peut échanger, hein. Il n'y a pas de problème. J'essaie d'être consensuel, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit de l'exprimer. Il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Pirate Talk, hein, c'est pas juste. C'est pas mouton talk, hein. C'est pas vous poser des questions, je parle et vous me suivez. C'est on échange ensemble et je peux me tromper. Donc faut pas hésiter. Que penses-tu des crypto-monnaies en général? Va-t-on vers une démocratisation ou bien les gouvernements et les banques vont freiner l'engouement? Qu'est-ce que je pense des crypto-monnaies? Alors, ce que je pense des crypto-monnaies, j'avais écrit sur un blog il y a longtemps, mais je vais te faire la version synthétique. C'est que d'abord, première chose, ce ne sont pas des crypto-monnaies. Voilà. Une crypto-monnaie, c'est une mauvaise appellation. Les crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies, ce sont des crypto-placements. C'est très 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 différent. Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, une monnaie, au départ, c'est pour échanger de l'argent, enfin pour acheter un bien. Voilà, on va faire simple. C'est pour acheter un bien d'une valeur et puis pouvoir faire du troc, du commerce. C'est l'équivalent moderne du troc, hein, voilà, où tu échanges un bien contre, enfin une valeur contre une autre. Le problème des crypto-monnaies actuelles, alors je pense surtout au Bitcoin, hein, qui est la plus, on va dire, évoluée et donc sur laquelle on peut vraiment parler. Les autres n'existent pas ou en tout cas sont trop expérimentales pour vraiment qu'on puisse juger. Le problème du Bitcoin, donc du coup, pour être plus précis que les crypto-monnaies en général, c'est que du coup, tu n'as aucun intérêt à acheter avec avec ton Bitcoin. Le système est conçu de telle manière que, alors, à l'époque, j'ai jamais été économiste, hein, mais à l'époque, c'était censé être révolutionnaire et super intéressant. En fait, le nombre de bitcoins global qui peut exister à terme dans le monde est fini. On peut pas, c'est pas comme les billets ou la banque, l'argent classique. On peut pas en produire de nouveau. Alors, actuellement, on en produit parce qu'on n'a pas fini de miner la totalité qui peut exister. Mais à terme, il y a un nombre fini de bitcoins. Et du coup, plus tu en creuses, plus tu en mines, hein, dans le langage Bitcoin, plus tu en mets sur le marché, plus il vaut cher. Et en fait, au bout d'un moment, donc il n'y en a plus. Il y a à un moment donné, si tu veux, toutes les pièces seront distribuées et bah, il n'y en aura plus autour. Et donc, ce qui fait que du coup, vu qu'il n'y en aura plus, il y a une quantité limitée, et bah, je ne sais pas pourquoi à l'époque c'était vachement valorisé, ils trouvaient ça génial. La seule chose que ça va faire, et c'est une évidence, et on le voit déjà, hein, mais c'était évident dès le départ, c'est que vu que tu as un nombre limité, forcément les gens vont enfin, se battre entre guillemets pour l'avoir, ou se battre pas du tout, mais ceux qui sont intéressés par le Bitcoin vont forcément se battre pour en avoir. Et du coup, la valeur d'une pièce ne peut que monter. Ça ne peut que monter. Et donc c'est hyper inflationniste. Enfin, non, je sais pas si on dit inflationniste, c'est peut-être le contraire. Après, je suis pas doué en économie, hein, mais en tout cas, voilà, la valeur de ta pièce ne peut que monter ou alors disparaître. C'est-à-dire, c'est soit elle monte parce que tout le monde veut s'arracher les bitcoins, soit un jour les gens ils disent bah les bitcoins ça commence à nous gonfler, on n'en veut plus, et bah ta monnaie elle vaut zéro. Voilà. Et donc, ce qui fait que, au final, hein, quand tu mets tout ça bout à bout, pourquoi c'est pas une crypto-monnaie? Et bah, c'est que du coup, tu n'as aucun intérêt d'acheter. Si tu achètes avec ta pièce, bon, tu as dépensé ta pièce, tu as eu un bien, et sauf que le mois suivant, ta pièce, elle valait le double, et donc bah ton bien, voilà, tu t'es fait enfler, en fait, si tu veux. Tu as donné un bien qui vaut deux fois plus cher contre un bien qui vaut deux fois moins. Donc du coup, bah tu t'es fait avoir. Ce qui fait que à l'usage, la meilleure chose que tu peux faire avec tes bitcoins, c'est les garder dans un porte-monnaie, action, tu vois, l'équivalent d'une action, d'un investissement, et du coup de ne rien en faire. Et du coup, si tu n'en fais rien, eh ben, ça s'appelle pas ça une monnaie, moi. Si la seule chose intéressante à faire avec ta monnaie, c'est de pas s'en servir, ben, c'est pas une crypto-monnaie. Voilà. Voilà. Je suis parti très loin parce que je vous ai réexpliqué un peu le principe et tout, mais voilà ce que je pense du coup des crypto-monnaies, essentiellement la Bitcoin. Pour moi, ça, ce n'est pas une monnaie. Alors après, au-delà de ça, est-ce que je trouve ça intéressant? Alors bon, d'un point de vue technique, révolutionnaire, etc., enfin intellectuel, c'est un concept intéressant. D'un point de vue pragmatique, c'est une horreur écologique. Voilà, C'est une horreur écologique qui va aller que en s'horrifiant encore plus. Et d'un point de vue financier, c'est un très bon placement. Voilà. Voilà ce que j'en pense quand tu mets tout bout à bout. Alors à toi de voir ce que tu préfères, la finance ou l'écologie. Hein, mais clairement, alors après, ce que j'avais trouvé une formule à l'époque sur mon blog, hein, c'était le Bitcoin. En fait, tu y viens toujours trop tard et tu repars toujours trop tôt. Voilà, c'est. Si tu te mets au Bitcoin, c'est toujours trop tard parce que bah, le Bitcoin vaut déjà cher et tu te fais enfler. Et tu pars toujours trop tôt parce que si tu attends un mois de plus, il va être deux fois plus cher et du coup, tu te seras fait enfler. Donc, tu es toujours coincé entre cet entre-deux où tu n'as pas vraiment fait ton beurre. Et en fait, les seuls qui ont fait vraiment leur beurre, c'est les premiers. Voilà, c'est les seuls qui gagnent. Et il y a aussi ce problème que je ne sais pas quand arrivera, mais il va arriver, c'est sûr. C'est mathématique et c'est pas une histoire de défiance, de fait que j'aimerais pas les bitcoins ou quoi, mais c'est évident que il va arriver un point où le bitcoin va se casser la gueule. Mathématiquement, en fait, c'est obligé. Et quand je dis se casser la gueule, c'est pas juste une petite baisse et puis il remonte après, hein. Non, non. Il va arriver un point où le bitcoin va être trop compliqué d'un point de vue algorithmique et d'un point de vue puissance ordinateur. Alors, sauf si peut-être on passe le saut quantique avant. Éventuellement, si les ordinateurs quantiques deviennent exploitables avant, peut-être qu'on s'en sortira comme ça. Mais là, tel que c'est parti, il va forcément arriver un moment où il ne sera plus utilisable en fait. Il ne sera plus humain, enfin technologiquement pratique. Voilà. Ça se voit notamment à la fameuse taille de la blockchain. Alors, ils ont fait des modifs, hein, pour essayer de la réduire, mais quand vous êtes un nouveau arrivant en Bitcoin, vous allez être obligé de, quand vous créez un portefeuille, de télécharger ce qu'on appelle la blockchain, donc qui est l'espèce de grosse base de données, si vous voulez, qui contient du coup la totalité des transactions. Hein, c'est le principe des Bitcoins. Il y a une traçabilité jusqu'au premier taux zéro, enfin la première pièce jusqu'à la dernière. Et donc voilà, à un moment donné, alors déjà donc ce fichier-là, vous le téléchargez, je sais plus combien il fait de gigas maintenant, mais il est assez volumineux. Alors même s'ils ont fait des trucs pour essayer de le réduire, c'est pas, tu peux pas par principe vu que tu dois garder la traçabilité de toutes les bitcoins, forcément, tu peux pas le réduire tellement en fait, tu peux le compresser éventuellement, mais c'est tout. Donc déjà, ce fichier-là est impraticable maintenant pour les particuliers. Le fameux minage de Bitcoin, là, le fait de trouver de créer des pièces est devenu aussi quasiment hors de portée des particuliers, sauf si tu as une ferme avec 36 cartes graphiques et tout super puissantes. Donc ça, c'est mort aussi. Il y a une difficulté constante, voilà, qui croît vraiment beaucoup trop vite par rapport à l'usage. Et à un moment donné, du coup, ce que ça va faire, c'est que ceux qui minent, justement, vont à un moment donné dire, merde, merde, les fermes vont en fait se recentrer, vont se polariser, il va y avoir une, deux grosses fermes de serveurs Bitcoin. Et au bout d'un moment, ça va pas être rentable, voilà, puisqu'il y a une espèce de calcul, hein, qui fait que quand tu contribues à la Bitcoin, quand tu mines, en fait, tu contribues aussi aux transactions et tu gagnes de l'argent sur une espèce de pourcentage sur la transaction. Mais plus ça va, plus il est faible. Donc plus ça va, plus tu dois faire du calcul. Et en fait, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut qu'exploser au bout d'un moment. Et donc quand ça explosera, il y aura moins du coup de mineurs. Du coup, il y aura plus de transactions parce qu'elles ne fonctionneront plus. L'architecture ne fonctionnera plus. Et du coup, le Bitcoin va se casser la gueule. Et les gens vont se retrouver du jour au lendemain des Bitcoins qui sera, alors je sais pas où il sera à ce moment-là. Il sera peut-être au million, j'en sais rien. Mais ça va se péter la gueule d'un coup. Parce que structurellement, il ne pourra pas faire plus. C'est. Alors, encore une fois, c'est mon analyse, hein. T'es pas obligé d'être d'accord, mais je suis persuadé que ça finira comme ça. Par rapport aux crypto-monnaies, tu n'as parlé que du Bitcoin, le système du blockchain dont il est conçu. Le Bitcoin est fait de cette façon. Et il peut arriver à un moment où le Bitcoin va arriver au prix de 1 million de dollars et il stagne. Même avec les indices quantiques, c'est impossible de dépasser la moitié de puissance de calcul sur le monde entier. Oui, enfin voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Du coup, pour moi, à un moment donné, ça ne tiendra pas. Est-ce. Et ce qui est intéressant, c'est l'Ether qui est en train de monter avec le smart contract qui vont changer énormément de choses. Honnêtement, j'ai beaucoup lu sur le smart contract. Pour moi, c'est du gadget. Après, en fait, pour moi, en fait, toute la technologie blockchain est un gadget. C'est un peu. Alors là, pour le coup, c'est peut-être une position un petit peu plus moins consensuelle que juste le fait que les bitcoins c'est pas des monnaies, ça à la limite tout le monde peut être d'accord avec moi, mais je suis pas du tout. Enfin, la blockchain pour moi, c'est comment faire une base de données de la manière la moins intelligente possible, quoi, voyez. À la base, ça sert à quoi la blockchain? Ça sert d'avoir une traçabilité parfaite et une historisation parfaite. Sous-entendu parce qu'on pouvait pas l'avoir avec une base de données classique. Alors d'abord, je suis pas tout à fait d'accord, mais du coup, pour mettre en œuvre cette blockchain, pour mettre en œuvre cette intégrité parfaite des données, il y a un effort de puissance, de calcul, etc., de redondance qui est incroyablement surévalué par rapport à pragmatiquement le besoin en fait. Ce qui fait qu'à l'arrivée, tu dépenses une énergie folle à faire un truc qui est que moyennement utile. Voilà. La problématique est sûrement, enfin, elle est utile. C'est pas le problème. C'est pas que c'est pas utile du tout. C'est juste que c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui n'est pas si utile que ça. Voilà. Et du coup, une fois que tu as posé ça comme problématique, eh ben, tu te rends compte que partout où tu as mis de la blockchain, eh ben, tu aurais pu mettre autre chose. C'est con, mais c'est ça. Alors, comme c'était le truc qui avait le vent en poupe, voilà, marketing, c'est un peu comme le web 2.0, hein, vous voyez. C'est comme Ajax. Hein, Ajax, vous auriez plus beaucoup du Ajax maintenant. C'est pas vraiment la mode. Eh bien, voilà, il y avait de la blockchain partout. On a dit, du coup, il s'est trouvé des tas de consultants en blockchain qui savaient déjà pas de quoi trop y parler, mais bon. Voilà, on a voulu en mettre partout et n'importe quoi, et au final, pour moi, la blockchain, c'est une technologie qui fait parfaitement ce qu'elle se prétend faire. Attention, hein. Elle est parfaite là-dessus, tu as une intégrité parfaite, sauf que tu n'as pas besoin d'une intégrité parfaite, et tu n'as pas besoin d'autant de puissance pour obtenir le même résultat. Voilà. C'est mon avis. Et donc, bah, du coup, les smart contracts, ça va un peu avec, quoi, hein. Pour moi, tu pouvais faire entre guillemets, des smart contracts sans aller sur de la blockchain, sans t'emmerder avec tout ça. Enfin, honnêtement, le smart contract, je trouve pas que ce soit une révolution à ce point-là. Après, j'ai pas creusé plus que ça. J'avoue, je suis pas aussi calé que ça là-dedans. Tout le monde dit que c'est la révolution, mais au même titre qu'on disait que je sais pas, la 3D dans les cinémas était une révolution. Au final, bah, personne n'aime la 3D au cinéma. Donc c'est pas une si grande révolution que ça, vous voyez. Ou les télé 3D. Il y a une époque, les télé 3D, c'était la mode. En fait, c'est ça, pour moi, j'appelle ça des modes. Alors, le smart contract dure un peu plus longtemps, donc peut-être qu'il y a du bon à prendre dedans. C'est peut-être pas entièrement que du gadget marketing. Donc tant mieux. Mais enfin voilà, on est encore loin du compte pour moi pour que ce soit vraiment utile et intéressant. Le Bitcoin est utile pour faire des achats en étant anonyme? Non. Ah, ça déjà t'as faux. Ça peut être. Alors je vais t'expliquer après, hein, t'inquiète pas, je ne t'insulte pas, hein, bien sûr. Ça peut être intéressant si on se dirige vers une société où tout ce qu'on peut faire est tracé. Voilà. Alors, le problème du Bitcoin, c'est que c'est pas anonyme. Ça ne l'a jamais été. Par définition, en fait, vu qu'il y a une historisation parfaite, il y a une intégrité parfaite, il n'est pas anonyme. En fait, il est, comment on pourrait dire ça? Il est pseudonyme éventuellement, si tu veux dire ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme Twitter, c'est-à-dire que là, vous me connaissez sous le nom de Chaos Farbotti, et donc du coup, vous voyez tous mes messages sous le nom de Chaos Farbotti. Je suis pas anonyme, je suis sous pseudonyme. Les bitcoins, c'est presque pareil. On sait absolument tout ce que vous faites avec. On sait juste pas votre nom. Sauf que bah après il suffit de retrouver votre nom. Et comment on retrouve votre nom? Bah c'est assez simple en fait parce que ça va être sur tous les points de migration entre parce qu'à un moment donné vous êtes obligé de passer du Bitcoin à l'argent réel dans un sens ou dans l'autre. Soit parce que vous fortifiez des positions, soit parce que vous voulez des Bitcoins. À un moment donné vous êtes obligé de passer de l'un à l'autre et à ce moment-là et bah, votre identité je veux dire, maintenant, vous pouvez plus acheter des bitcoins anonymement, ça n'existe pas, ça. Vous êtes obligé de fournir votre carte d'identité et tout, hein, donc y a pas de, il n'existe pas de transaction anonyme. Je ne sais pas pourquoi on continue à pousser cet argument-là. Ça l'a jamais été, hein. Et vu que de toute façon, en plus, c'est même plus con que ça. Vu que de toute façon, l'historisation est parfaite et complète et pour toujours. Eh ben, on n'a qu'à dire que, voilà, enfin, dans 10 ans, on saura bien qui vous êtes. Si vraiment on cherche, si vraiment on a besoin de savoir qui vous êtes, on finira bien par le savoir. Et donc, enfin, je parle d'une institution financière. Hein, je sais que le FBI s'amuse à choper des gens sur le bitcoin parce qu'ils pensent être anonymes sur le bitcoin. Hein, je crois que c'était la fameuse. Vous savez, le fameux site là, de vente de trucs illégaux qui était sur le Darknet, qui tournait vachement en bitcoin. Bon, bah, ils ont chopé tout le monde. Hein, ça n'a pas d'anonyme en fait. C'est même au contraire, c'est une comptabilité à ciel ouvert. Tout le monde peut voir tout ce que fait tout le monde. Il y a zéro anonymat. Le Monero est complètement anonyme, ça je sais pas, je connais pas le Monero. Est-ce que j'ai tout. Je crois qu'il y a une question qui a été mise deux fois et je l'ai encore zappée. Comment faire pour avoir une récompense sur une faille, trouvée sur un site? Excuse-moi, hein, Ellie Joseph, j'ai vu que tu avais posé deux fois la question et je ne t'ai pas répondu la première fois. Donc, que peut-on faire pour avoir une récompense sur une faille trouvée sur un site alors qu'un programme de bug bounty n'est pas en cours? Oula! Alors, d'abord, ça va dépendre de beaucoup de choses. D'abord, le pays dans lequel tu es. Si tu es en France, déjà, je pense que tu peux t'asseoir dessus. Peut-être, voilà. Si tu veux une récompense, tu vas devoir prier très fort, être très très aimable avec les gens avec qui tu as trouvé une faille. Et espérer que dans leur grande bonté, ils veulent bien t'accorder quelque chose. C'est un peu le problème en fait. Autant en Amérique ou en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons d'une manière générale, si tu le présentes ça assez bien, de manière assez propre, tu vois, dans le disclosure, tu fais bien les étapes correctement et tout machin, tu te présentes comme pas un consultant, mais presque, voilà, de sécurité, ça devrait bien se passer. Autant en France déjà, tu risques de te faire poursuivre un coup sur deux. Et donc, voilà, la récompense, c'est déjà bien beau s'il ne dénonce pas aux flics, en fait. C'est un peu compliqué. Donc, hors bug bounty, en France, honnêtement, c'est au bon vouloir de la boîte que tu vas sur laquelle tu as une faille. Et franchement, zombie, quoi. Hein, je pense que tu peux t'asseoir dessus. Ça se tente, hein, mais enfin, en plus, tu ne m'as même pas demandé. Tu peux pas dire j'ai trouvé une faille, donnez-moi des sous, parce que ça va être pris comme un chantage. Donc tu peux même pas la faire comme ça. Donc tu vas dire bonjour, j'ai trouvé une faille. Et s'ils sont gentils, ils vont te dire bah merci pour la faille, tiens, voilà un cadeau. Voilà. Tu ne peux rien faire de plus que ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Honnêtement, des failles, j'en ai trouvé quelques-unes. On m'en a remonté quelques autres et du coup c'est moi qui les ai reportées. On n'a jamais eu de récompense, ni moi, ni la personne d'origine qui a fait le report. Ça n'existe pas en France, la logique du paiement pour avoir trouvé une faille. Franchement, ils s'en foutent. Plif plaf plouf. De mon point de vue, la blockchain est faite pour avoir une base de données infalsifiable et donc très fiable. Oui, ça je suis d'accord. Et en plus, on n'aurait plus besoin d'avoir des intermédiaires pour nous faire passer nos transactions et alors on va économiser énormément. Le problème, c'est que la technologie pour y arriver quelque part trop coûteuse pour ce qu'elle obtient. C'est ça le problème en fait. L'équation économique ne tient pas. Alors, sur la Bitcoin, sur des petites blockchains, ça tient peut-être. Ça dépend du nombre de transactions en fait que tu vas avoir. Mais au bout d'un moment, tu as trop de puissance pour ce qui est nécessaire en fait. En fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette problématique-là, c'est le fameux problème des 80-20%. Ou 90-10, enfin, voilà. On vous explique toujours que pour atteindre le 100% de quelque chose, les derniers pourcents, c'est les plus durs à avoir. Et ben c'est ça la blockchain. La blockchain, elle vous accorde le 100%, sauf que du coup, donc c'est mieux que les 80% que vous aviez avec une base de données classique, sauf que pour faire ce gap du 80 au 100%, la dépense énergétique, la dépense de puissance, de fric, de temps passé, de tout ce que tu veux, est très 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 grande et généralement supérieure à l'énergie que tu as dû fournir pour passer de 0 à 80%. Donc, dans la plupart des cas, c'est trop. Voilà, c'est trop par rapport aux besoins et l'équation économique ne tient pas. Encore une fois, c'est au cas par cas. Je bois un petit coup parce que ça donne soif de parler. Et comme je suis le seul à parler et que vous voulez pas venir en vocal, il va falloir que je meuble. Hein. Quoi, on fait du FPS. On fait du Sea of Thieves, c'est tranquillou. En plus, à cette heure-là, il n'y a personne sur le serveur. Donc, je me fais pas trop harceler. Tout va bien. Bon, après, je fais du Sea of Thieves extrêmement lentement, hein. On n'avance pas dans nos quêtes. Bon, j'ai trouvé un peu de trésor, mais je sais même pas si je finirai avant la fin du live. Il me reste 10 minutes. Ouais, je vais peut-être y arriver. C'est pas dit. Cap vers la dernière île au nord-ouest. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions que j'aurais zappé? Du coup, Monero, je connais pas. Je connais Monero, mais j'imagine que c'est pas ça dont tu parles. Je connais pas Monero. Je sais pas si c'est basé sur de la blockchain aussi. Sur le même principe. Je connais pas. Il faudra que je me renseigne dessus. As-tu eu l'occasion de lire le livre de Edward Snowden? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre d'Edward Snowden. Je savais même pas qu'il en avait sorti. Hein. Bon, ça me surprend qu'à moitié parce que forcément maintenant c'est un personnage. Il y a de quoi faire en termes de romans, aussi bien de livres techniques que de livres biographiques, qui doit être assez incroyable aussi. Mais non, j'ai pas lu. Alors en même temps, honnêtement, je lis de moins en moins ces temps-ci, mais quand je me mets à lire, je lis plutôt de la SF. Alors je sais bien que bon, Snowden, on est quand même sur un peu de la SF tellement c'est incroyable, mais c'est pas mon kiff quoi. Comme je lis pas les livres de politique ou voilà. Après bon, Snowden j'aime bien. Hein. Là pour le coup, tu vois, je lirais bien plus un livre de Edward Snowden qu'un livre de Julian Assange par exemple. C'est dans l'ordre des choses des gens que je considère comme intéressants à lire. Oui, plus Snowden clairement. Mais après, non, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion. J'ai une pile de livres longs comme le bras à lire, et c'est que de la SF. Et voilà, je lis pour me détendre, quoi, hein. Je lis pas forcément pour lire les backstories, quoi, hein. Mais c'est sûrement très intéressant. Le film sur Netflix, c'est pas mal, ouais, peut-être je le regarderai plus, du coup, c'est plus simple à caser. Parce que j'ai jamais le temps pour rien, hein. C'est aussi bête que ça aussi, hein. J'ai peu de temps libre, en fait, c'est incroyable, mais. Je sais pas comment je fais, je me démerde mal, mais j'ai jamais le temps. Bonjour Chaos, je repose ma question. Peut-être d'une meilleure manière. Ah, peut-être je l'ai mal lu, excuse-moi. Peut-on faire du pentest à bon niveau sans passer par beaucoup de hacking web? Dans le sens, se spécialiser dans le hacking machine serveur, voire domotique. Alors, oui, tu peux tout à fait avoir un bon niveau en ne faisant pas tout. La preuve, enfin la preuve. Tout le monde a l'air de dire que j'ai pas un niveau trop dégueulasse. Et honnêtement, je ne fais que survoler certains domaines du hacking. Je suis pas mauvais typiquement en hacking web, ça c'est clairement mon point fort. Je sais faire un peu de reverse, je sais voilà, chatouiller des API, je sais faire de la compilation, bah je sais toucher un petit peu à tout, mais voilà, un petit peu. Mais je suis certainement pas un cador en Windows, effectivement, même en reverse. Enfin voilà, il y a plein de domaines où je ne suis pas bon. Et en fait. T'as pas besoin parce que ça va vraiment dépendre de ce que tu fais après comme métier. Alors, si tu veux intégrer des boîtes qui font du pentest, oui, ça va être de l'annuaire d'entreprise, oui, ça va être du Windows, oui, ça va être du VLAN, ça va être beaucoup en fait du network hein, finalement. Quand tu fais de la sécu en entreprise, via des sociétés de sécu, hein, j'entends, c'est somme toute beaucoup, beaucoup d'ingénieurs réseau en fait, hein, quand tu regardes bien dans le détail. Donc ça va être de l'analyse de couches réseau, ça va être oui, de l'annuaire, de l'AD, Windows, etc. Autant de choses qui finalement sont assez loin de ma carrière d'admin système, chef de projet, développement web, tu vois. Je suis plus dans ces branches-là. Et du coup, c'est pas du tout ce qui est recherché effectivement actuellement. Mais dans le monde merveilleux de la sécurité, il y a plein plein de choses et. Après, ça dépend, voilà, tu vas pas postuler aux mêmes boîtes, tout simplement. Voilà. Et honnêtement, je connais personne qui est bon partout. Ça n'existe pas, ça. Il y en a qui vont te vendre, qui sont bons partout, qui vont faire semblant d'être bons partout, mais ça n'existe pas. Pour donner un exemple tout bête, moi, mon plus gros point fort, c'est même pas de la technique. Moi, mon truc à moi, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est la méthode EBIO-CRM, je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une vision assez globale. Et c'est hyper méta et pas du tout technique en fait. C'est vraiment de l'analyse globale. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement demandé par les entreprises où tu fais de l'analyse de risque, tu regardes quelles sont les failles, tu fais le tour d'une espèce d'audit de leur système sans forcément aller dans le pur technique, mais tu dis, bah là voilà, là il y a des trous, là il y a des choses qu'il faudrait, des bonnes pratiques qui sont pas en place, tu vois, des choses comme ça. Ça c'est clairement ma spécialité quelque part. Elle n'est pas technique et c'est clairement un métier. Que je connais plein de techniciens qui veulent surtout pas faire en fait. C'est un comment dire un métier qui n'intéresse pas grand monde, enfin qui a va plus attirer des gens qui sont intéressés par le consulting que des gens qui sont intéressés par le pentesting. Voilà. C'est du boulot de RSSI, c'est l'administratif. Tu vois, voilà, c'est exactement ces arguments-là. C'est clairement pas un truc qui intéresse tout le monde. Et pourtant, ça a toute sa place dans la sécurité informatique. Donc, tu vois, c'est très très large. Honnêtement, enfin, par exemple, je suis sur Internet des gens qui sont spécialistes en crypto. Et ben, la crypto, je suis désolé, si tu passes pas des heures et des heures à en faire, t'es nul en crypto. C'est super compliqué la crypto, ça nécessite des maths et tout. Enfin, c'est très très pointu comme domaine. Et tu peux pas être expert en crypto et expert en tout le reste en même temps. Voilà. Donc, spécialise-toi dans ce que tu veux, évidemment. Ça n'empêche pas de survoler et de connaître un peu tous les sujets, hein, évidemment. Mais enfin, si le hacking web, c'est pas ton truc, ne fais pas de hacking web. C'est aucun intérêt de se forcer, en fait, hein. De toute façon, les entreprises sont mauvaises en tout. C'est ça. Tu peux leur proposer de la sécurité en toute chose, parce qu'elles sont nulles en toute chose. Elles ont beau dire, hein, honnêtement. Les derniers exemples que j'ai eu de grosses boîtes. Franchement, le peu que j'ai aperçu, et puis je parle de vraiment de grands noms, hein. Je vais pas donner de nom parce que là, pour le coup, on pourrait me faire des emmerdes, mais j'ai vu des choses, soit directement, soit par des employés, et dans des grosses boîtes hein, qui font de la sécurité, hein, dont le métier est, plus ou moins indirectement, enfin voilà, dont le métier est relatif à la sécurité, des très très grands noms de la France qui ont enfin, des choses en interne qui sont dégueulasses. Mais vraiment, du niveau de n'importe quelle, normalement, personne qui a suivi ma chaîne sait gérer ça, quoi. Donc, voilà, chacun sa spécialité, et de toute façon, ta spécialité sera utile quelque part. Voilà. Donc, tout est utile dans le hacking. À la limite, c'est surtout ça. Sois bon dans ton truc, et puis bah tu vas bien trouver quelqu'un qui va t'embaucher, ne serait-ce que pour avoir le complément. Les gens vont t'embaucher parce que bah, ils n'ont pas ce talent-là dans leur équipe. Moi, mon talent à moi, il est plus dans la pédagogie, moins dans le technique. Bah, ça intéresse une certaine partie des gens, mais pas tout le monde, voilà. À l'encre de l'épave sur le littoral, à l'est. On est où là sur l'île? Quand même que j'essaie de finir cette quête. Mais ça peut pas m'handicaper sur le long terme de pas savoir faire de hacking web. Non. Ce qui va t'handicaper, c'est de pas savoir faire du Windows. Moi, ça m'a handicapé. Donc voilà. Fais du Windows. Fais de la. Si le hacking web te fait chier, fais du hacking Windows. Voilà. Ça c'est une bonne voie. Si celle-là ne te fait pas chier, profite. Vas-y, amuse-toi. Pas si elle te fait chier, elle te fait chier, mais qu'est-ce qui me passe là? Hop. Donc, si cette branche-là ne te déplaît pas, c'est clairement là-dedans qu'il faut aller. Surtout de l'AD, voilà. Amuse-toi en AD. Les entreprises ont tellement comment dire, d'arriérés, hein, de comment on appelle ça, la dette technologique, voilà. Une dette technologique tellement énorme que tu as le temps de t'amuser un bout de temps avant qu'il n'y ait plus d'AD à corriger. Alors, ce sera quand qu'on te verra dans des events genre le hack ou autre après cette vague de Covid? Alors déjà, j'aimerais bien que la vague de Covid s'arrête. J'ai fait quoi? J'ai fait le FIC. C'était sympa. Après, c'était peut-être trop professionnel par rapport à. Enfin, c'est plus un rendez-vous de gens qui veulent faire du business, quoi. Hein, donc, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour moi. Je suis très intéressé par. De toute façon, en fait. C'est là où c'est un peu con. L'année où le Covid est arrivé, c'est là où je m'étais dit, il faut que je fasse plus de, alors, entre guillemets, de conventions. Enfin, voilà, j'appelle ça des conventions. C'est ouais, comme le hack et compagnie ou passage en scène. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et donc je m'étais dit, ouais, faut que j'en fasse plus. C'est clairement ce qu'il faut. Enfin, ce qu'il faut. Moi, ça m'intéresse. Puis je voulais faire des conférences. J'ai envie de faire des conférences en fait depuis pas mal de temps. Je sais pas comment. Je sais comment faire une conférence, c'est pas le problème. Mais je sais pas comment m'y prendre pour devenir conférencier, si vous voulez, et puis en faire un peu, pas mon métier, mais bon, pour évoluer là-dedans et être un acteur reconnu, on va dire, voilà, des conférences. éventuellement aussi qui rapporte un peu, parce que bon, mine de rien, l'aspect financier est toujours un point important. Donc j'aimerais bien en faire. Maintenant, bah oui, c'est mal tombé. Juste l'année où je me dis je vais en faire, bah il y a le Covid. mais ouais, clairement, j'aimerais en faire. Alors du coup, si vous avez des contacts, alors bon, c'est peut-être un peu tôt encore, parce que le Covid, à mon avis, on n'est pas débarrassé tout de suite. C'est pas avant 2022 minimum. Mais si vous avez des contacts pour placer des conférenciers, bah, placez-moi. J'ai des conférences. En fait, j'ai déjà potassé des conférences, des trucs que j'ai jamais fait sur ma chaîne, hein, typiquement sur le hacking et sur le éthique, mais j'avais formulé ça en mode un peu conf. Alors, j'ai pas le PowerPoint, vous savez, j'ai pas fini de formaliser les diapos, quoi, mais j'ai quasiment tout dans la tête. J'ai déjà une conférence dans la tête, si vous voulez. Alors, sûrement qui serait beaucoup trop longue, parce que vous me connaissez, je blablate beaucoup trop longtemps. Mais ouais, non, j'adorerais faire des conférences. Et de gagner une notoriété dans les conférences, tu vois. C'est quelque part, j'ai un. C'est pas parce que j'ai envie d'être célèbre, mais là où j'en suis professionnellement, j'aimerais bien devenir plus visible, plus notable, plus célèbre. Voilà. C'est un peu le. Entre guillemets, la publicité, quoi. C'est ça qui me manque. Donc c'est ça que je veux travailler. Déjà, le but, c'est de se faire connaître. Voilà, exactement. Les outdoors, c'est un salon professionnel aussi. Je suis pas sûr que. Enfin, quoique. Mais en fait, les outdoors, je pourrais pas y faire de conférence parce que savez-vous que c'est quand même dans les sites porno qu'on a les meilleurs sécu, hein. Mine de rien. En fait, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer, ça. Mais dans le monde du porno, on a toujours été précurseurs en informatique. C'est eux qui avaient les premiers sites web, c'est eux qui avaient tout de suite les meilleures infras pour faire de la vidéo, c'est eux qui avaient lancé la 3D, la réalité virtuelle, enfin, etc. Le monde du porno est extrêmement attentif aux nouvelles technologies et toujours prêt à exploiter tout ce qui vient. Et la sécu, c'est un énorme point important dans le monde du porno. Ils sont calés, en fait. C'est là où il y a du fric. Bah ouais, aussi, quelque part. Voilà, c'est un business hyper important, donc. Donc forcément, voilà, ils mangent le plus, c'est eux qui sont le plus calés là-dedans, et non, c'est assez... Ah ça y est, je crois que j'ai enfin... Depuis le temps que je tourne, je crois que j'ai enfin trouvé le coffre qui manque. À l'encre, c'est ici, voilà. Bon, enfin voilà. Quelle heure il est? Ah bah oui, il est l'heure en fait, du coup. C'est surtout qui ont mangé le plus d'attaques, ouais, clairement. Eh ben ma foi, j'aurais pas fini ma quête. Il me restera celle-là à finir, mais c'est pas grave, je la finirai tout seul. Allez, une petite dernière. Je rebondis sur les métiers de la sécurité. Regarde ce lien, il y a plein de métiers dans le secteur. Bon, bah, là, je vous laisse le lien. Et du coup, eh ben moi, je vais vous dire à la prochaine en fait. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Petit live du coup, Piral Talk, moins vocal que la dernière fois, peut-être moins bordélique aussi quelque part. Donc. C'est peut-être mieux, je sais pas. On est toujours en phase expérimentale, donc n'hésitez pas à me dire si le format vous convient, ou vous fait chier, ou voilà, ou si c'est pas intéressant du tout. Vous préférez qu'on fasse de la technique, des CTFF, alors des Windows, ça j'ai bien compris, mais que grosso modo, le blabla, vous en avez rien à foutre. Ou si au contraire ça vous plaît bien. Auquel cas, bah, on essaiera de continuer. Hein. Pour l'instant, je reste sur une optique, on continue, mais bon, vous avez le droit de me dire que c'est de la merde. Du coup, je vous aurai le replay bien sûr sur YouTube, puisque maintenant hein, YouTube me laisse passer jusqu'à ce qu'il me laisse plus, mais voilà. Et ma foi, la prochaine, du coup, pas lundi, oh putain, bon, mon fond vert, encore dégueu. J'ai même pas vérifié, bon, on aura eu tout le live ou presque avec le fond vert dégueu, je m'en excuse. Du coup, oui, la semaine prochaine, dimanche prochain, on sera le 21, dimanche 21. Ce sera donc un catch the flag. J'essaierai de faire une Windows. Je vous promets rien. Il faut que j'en trouve une. Ou alors on fera autre chose. Hein, peut-être du forensing. Je ne sais pas. J'essaierai de vous trouver un truc. Encore une fois, si vous avez des suggestions, envoyez-les-moi. Hein, le Discord est là pour ça. Et donc, dans 15 jours, et bah, si ça vous plaît bien ce format, on continuera ce format. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis bonne fin de week-end. Bonne semaine si vous êtes en train de regarder le replay et ma foi, à la prochaine. Salut tout le monde.